BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdo.com sur BFM Business. Au programme de cette émission, quelles évolutions pour le métier de DIRCOM? On en parle avec Caroline Guillaumin, directrice de la communication du groupe Société Générale et vice-présidente de l'association Entreprises et Médias. Notre zoom de la semaine sera consacré à la polémique qui entoure la publicité sur les trottoirs. On essaiera d'y voir plus clair en compagnie de Tanguy Bardecoutance, directeur associé de Biodégrade, et Éric Landau, avocat au barreau de Paris. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Guillaume Aurine, directeur marketing produit de Salesforce. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Bonjour Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne. Avec bonjour vous, Aurélie. Fait une nouvelle fois le tour des actualités qui vous ont marqué cette semaine. On commence avec la MAF qui change de décor.
Et oui, fini l'hommage à la série Palace, fini les Je l'aurai un jour, Je l'aurai. 14 ans de publicité devenue culte pour la MAF. En 2018, l'assureur lance une nouvelle saga publicitaire, toujours sur un ton décalé. Cette fois-ci, la référence c'est OSS 117 et Austin Power, les célèbres agents secrets, une campagne réalisée avec Aubert et Scotch avec l'objectif de rajeunir la clientèle de l'assureur.
Et puis IKEA de son côté a lancé en Suède une façon très originale d'obtenir des bons de réduction pour ses meubles.
IKEA propose à ses clientes en Suède d'uriner sur sa dernière campagne print comme sur un test de grossesse. Si elles sont enceintes, un bon de réduction apparaît. Résultat, un lit pour enfant à moins 50%. La publicité a été réalisé par l'agence suédoise Akemast Host.
Bon, original, mais de bon goût, je sais pas. Campagne humoristique aussi pour Volkswagen.
Dans trois films imaginés par l'agence DDB Paris, Volkswagen met en scène des conducteurs vraiment très attachés à leur voiture, au point de trouver n'importe quelle excuse pour ne pas la prêter.
Tu fais un truc, toi, demain ?
Oh non, demain, je bouge pas, là, je suis crevée.
Ah, tu veux pas me prêter ta voiture ?
Attends, demain, tu veux dire le jour qui suit aujourd'hui ?
Bah, ouais,
Ah, non, parce que je pensais que tu me parlais de demain à 8. Donc, bah non, en fait.
Non, mais sérieux, t'as une Volkswagen, t'as peur de quoi ?
Quand on a une Volkswagen, on a une Volkswagen.
Tiens, on reste dans le domaine de la voiture, Marie, avec Sixt qui remercie le Premier ministre carrément.
Voilà, le loueur de véhicules fait un clin d'œil à l'actualité cette semaine et rebondit sur la réduction de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires. Sixt a publié une annonce cette semaine sur les réseaux sociaux, une publicité. Rouler moins vite, c'est profiter plus longtemps de sa voiture Sixt. Merci, monsieur Édouard Philippe.
Fred, c'est malin.
Mais c'est la marque de fabrique de Sixt. Hein. Rebondir sur l'actualité, c'est rusé, ça coûte pas cher et ça marque.
Merci Marie Valogne, à la semaine prochaine.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Caroline Guillaumin, directrice de la communication et des ressources humaines du groupe Société Générale. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi vice-présidente de l'association Entreprises et Médias, association qui regroupe, on va dire, les principaux DIRCOM. On va faire un point justement avec vous sur les évolutions, les défis qui attendent votre métier en ce début d'année. D'abord, moi je m'interroge beaucoup sur les profils. J'ai lu dans une étude Wistopic que les profils sont de plus en plus professionnalisés alors qu'avant, on venait un petit peu à la com par hasard. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez?
Oui, c'est assez vrai en fait. C'est vrai que quand on regarde les 10-20 dernières années, on avait une tendance à arriver à la com par hasard. Ça a été d'ailleurs un peu mon cas, donc je dois dire que ça marche également. Aujourd'hui, il y a des filières qui se sont créées, on a des écoles qui sont un peu plus spécialisées, et donc effectivement, on se retrouve avec des profils un petit peu plus spécialisés, même si je crois qu'on peut encore arriver dans la com par hasard.
C'est une bonne chose ou pas ? Ou ça risque finalement de faire un peu des DIRCOM qui seront tous pareils à l'avenir ?
Oui, moi je crois beaucoup au fait d'avoir des profils extrêmement diversifiés. Ça ne veut pas dire que de faire une bonne école de com, ce n'est pas quelque chose d'important, mais je suis plutôt en faveur d'un profil plus généraliste que très spécialisé.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'en fait, on a besoin d'avoir une culture plus générale. Donc moi, je cherche par exemple des profils et des gens qui ont une ouverture sur le monde qui va bien au-delà de juste une vision professionnelle de la com. et qui ont une, par exemple, une vision très client, orientée client. C'est pas quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans les formations de com. Voilà. Donc, je pense que les deux marchent, mais que, en tout cas, à titre personnel, je pense qu'il faut laisser beaucoup d'ouverture sur des profils un peu différenciants.
Alors, l'étude montre aussi que la majorité des DIRCOM sont des femmes. c'est ce qui est plutôt une bonne chose. Mais comment est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est quelque chose qui va s'installer comme ça dans la durée, ou est-ce que justement le fait que les formations soient aujourd'hui différentes, ça va faire venir des hommes?
Ouais, alors on voit quand même pas mal d'hommes qui rentrent maintenant dans ces métiers, donc ça c'est une bonne chose, puisque le fait d'avoir effectivement différents profils, c'est bien. Je crois que c'est dû quand même au fait qu'on est encore dans un environnement où on imagine que c'est bien pour une fille de faire plutôt des études de type littéraire, ce qui est quand même ce qui plutôt mène à la com, Sciences Po, CELSA, des choses de ce type-là. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que moi, je pense que effectivement, il n'y a pas, pour moi, de filières qui sont spécifiques hommes ou femmes. Mais malheureusement, c'est encore le cas. Donc je pense que c'est un peu historique. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes, et c'est très bien. En tout cas, dans nos équipes, on voit quand même le nombre d'hommes monter. Et moi, personnellement, je trouve ça, évidemment, toujours très positif.
Vous êtes aussi de plus en plus multicasquettes, les DIRCOM. Vous touchez un peu au marketing ou parfois aux relations publiques, ou dans votre cas, aux ressources humaines. Faut être bon partout. Comment ça se passe?
Alors, en fait, je pense que c'est deux sujets différents. Vous avez effectivement pas mal d'entreprises, et en particulier peut-être des entreprises B2B, dans lesquelles la frontière entre le marketing et la com est extrêmement tenue. Donc vous allez avoir effectivement des DIRCOM qui vont avoir un scope plus large, en particulier avec le marketing. Le digital, sous certains aspects, rentre automatiquement dans les scopes de DIRCOM, donc ça c'est plutôt pas mal. Dans mon cas, pour moi, c'est deux fonctions totalement différentes que je cumule, mais je ne mixe pas, je dirais, ce sont deux métiers qui sont vraiment différents, donc on pourra en parler, mais en tout cas, c'est pas la com qui chapeaute la RH, c'est je supervise deux fonctions très différentes, mais sur lesquelles nous avons beaucoup d'interactions, et ça, c'est très positif.
Et alors, à la fois la com des entreprises, des marques, s'est formidablement complexifiée ces dernières années, parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a une espèce de prise de parole absolument permanente des marques aujourd'hui. Ça change complètement votre job. Ça change complètement votre job.
C'est peut-être un des jobs. Alors, quand on vit des transformations majeures dans les entreprises, on a tous tendance à se dire on vit des transformations incroyables. C'est vrai que
c'est le cas.
Mais c'est le cas. Alors là, je confirme. Non seulement c'est le cas, mais dans la com, en fait, on a une rupture majeure qui est venue par effectivement, on est passé d'un espèce de DIRCOM qui contrôlait absolument tout, qui avait l'impression de contrôler tout, et donc il y avait cette notion de vous pouvez parler, vous pouvez pas parler. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes entouré de réseaux sociaux, les salariés parlent, et ils parlent quand ils veulent, ils s'expriment, et c'est très bien d'ailleurs, il faut savoir tourner ça en avantage. Donc oui, ça a changé beaucoup, et ça a changé à la fois les profils, et à la fois aussi la rapidité avec laquelle on fait les choses. On parle de com de crise, on est aujourd'hui confronté à des crises de façon quasi permanente, on est confronté à une interaction entre interne et externe. Le fait d'avoir même des organisations dans lesquelles vous avez l'interne et l'externe complètement séparés, ça n'a juste plus de sens. Donc en fait, il faut repenser les organisations, la façon dont on travaille. Enfin, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Ça fait vraiment... On est au cœur de la transformation des entreprises. Et je pense que la com a un rôle stratégique à jouer. En tout cas, elle le joue dans beaucoup d'entreprises. Il faut qu'on continue à aider les métiers à accompagner cette transformation.
Rapidement, quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut se lancer comme ça dans une carrière de DIRCOM?
Alors d'abord, effectivement, encore une fois, je pense que c'est pas forcément les études qui va faire la différence. Je pense que des études, en particulier très généralistes, restent quand même quelque chose qu'on regarde de très près, même si je trouve qu'il y a des écoles de com qui sont très bien, mais j'avoue que moi, je regarde beaucoup un profil de type Sciences Po et toujours quelque chose qui m'attire. L'expérience internationale est importante. L'étude le met, je dirais, pas forcément comme un plus. Je pense que c'est un plus. La vision client est primordiale. C'est pour ça que des passages en vente ou en marketing est importante. Et puis le digital. Aujourd'hui, moi, je ne recrute plus personne qui n'est pas totalement plongé là-dedans, avec une vraie compréhension de ce que ça a comme impact pour son métier.
Merci Caroline Guillaume. Je rappelle que vous êtes la directrice de la communication et des ressources humaines du groupe Société Générale, vice-présidente également de l'association Entreprises et Médias.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et cette semaine, on retrouve Simon Tenenbaum de la rédaction de BFM Business avec le bilan 2017 des signatures de marques publiées par l'Observatoire des slogans cette semaine. Simon, quels ont été les mots les plus utilisés par la publicité en 2017?
Bien, historiquement, on retrouve toujours les trois mêmes mots d'habitude, hein, trois verbes, être, faire et avoir. Mais en 2017, ce podium a été bousculé par le hashtag, qui est désormais le troisième mot le plus employé dans les slogans. Il était déjà à la quatrième place l'année précédente. Voilà, un symbole utilisé par les publicitaires, évidemment, pour apporter cette petite touche de modernité à leur slogan. Mais attention à ne pas trop banaliser ce hashtag. Il y a un vrai risque que le consommateur aujourd'hui se lasse du hashtag. L'Observatoire des slogans anticipe d'ailleurs un recul de ce symbole pour l'année prochaine. C'est vrai que c'est tout l'art du slogan. On retrouve souvent un même panier d'une cinquantaine de mots, mais qu'il faut savoir associer à un autre terme plus original pour se distinguer. Par exemple, on retrouve souvent les mêmes termes en fonction des secteurs, comme ouais, passion et technologie dans l'automobile, bon et goût dans l'alimentaire. Et donc un slogan réussi qui ne va pas être banal, ça va être d'associer un de ces mots classiques à un mot plus original. Un exemple chez Michel et Augustin avec son slogan « Le trublion du goût ».
Et alors, est-ce qu'il y a eu des nouveaux mots en 2017 dans les slogans?
Oui, il y a des mots qui sont même sortis du lot en 2017. Alors, parmi les plus fortes progressions, on a le mot « vacances ». Voilà, peut-être parce qu'on a eu envie de vacances avec cette année 2017 très chargée en termes d'actualité. Le mot « nature », qui est celui qui enregistre la plus forte progression. La nature à bon goût, par exemple, pour les chips Vico. Voilà, on est dans cette tendance du bio, de l'écologie, ouais, évidemment. On a d'ailleurs des mots qui apparaissent pour la première fois dans des slogans comme endocrinien, épluchure, végétalien, dans une pub pour l'enseigne Bio Naturalia. Des nouveaux mots aussi, on s'en doute, liés aux nouvelles technologies. Snap avec l'assureur Allianz, swiper ou tuto dans une pub pour l'opérateur Orange. Enfin, dernier enseignement de cet observatoire, on constate que l'anglais connaît une évolution assez intéressante cette année. Il progresse pour les slogans liés aux campagnes, pour la promotion d'un produit, une campagne ponctuelle, car on voit bien que l'anglais est de plus en plus une langue du quotidien. En revanche, pour les signatures de marque qui restent associées à l'annonceur sur le long terme, eh bien là, l'anglais régresse pour la toute première fois. Les marques qui cherchent peut-être à se donner plus d'ancrage, plus d'authenticité, plus de sens dans la durée grâce à leur slogan.
Merci Simon Tenenbaum.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Le zoom du jour autour de la polémique sur l'expérimentation de la publicité sur les trottoirs. On en parle avec Tanguy Barde-Coutances. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Biodégrade et Éric Landau, avocat au barreau de Paris. Bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que le gouvernement a reculé la semaine dernière à la fois à Nantes et à Bordeaux sur cette expérimentation de la publicité sur les trottoirs. Alors d'abord, on a voulu savoir d'où venait l'idée de cette expérimentation. Un reportage de Marie Valogne.
S'affranchir des normes juridiques et des processus administratifs pour soutenir l'innovation. C'est tout l'enjeu du programme France Expérimentation qui teste pour une durée limitée des dispositifs innovants qui viendraient soutenir l'économie. Un programme mis en place à l'été 2016 et soutenu par le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Parmi les initiatives retenues, la publicité sur les trottoirs qui déroge pourtant à plusieurs règles du code de la route et celui de l'environnement. Une expérimentation limitée à 18 mois évalués tous les 6 mois et surtout très encadrés, ne sont autorisées que des publicités éphémères d'une durée de 10 jours maximum, imprimées à base d'eau, de peinture biodégradable ou de craie. Elles ne doivent pas diminuer l'adhérence du trottoir, ne pas dépasser 2,50 m et ne pas se situer à moins de 80 mètres d'une autre pub au sol. Trois villes ont été choisies par décret pour participer à l'expérimentation, Lyon, Nantes et Bordeaux, sauf que les élus n'avaient pas été consultés. Devant la levée de boucliers à Bordeaux et à Nantes, le gouvernement a préféré reculer. L'expérimentation aura donc finalement lieu uniquement dans la ville de Lyon.
Maître Landau, moi je me tourne vers vous d'abord parce que je croyais, j'étais persuadée, comme j'en avais déjà vu sur les trottoirs, que c'était autorisé. C'était pas le cas en fait.
Alors c'est autorisé dans certains cas pour des utilisations associatives ou sans but lucratif. Et pour le reste, il y a un texte du code de la route qui l'interdit, mais qui l'interdit dans des termes un brin flou, dans ce flou, un certain nombre d'acteurs se sont engagés avec enthousiasme.
Monsieur Desgrades, vous vous êtes engagé avec avec enthousiasme. Est-ce que ce rétropédalage du gouvernement, du coup, va vous a refroidi quelque part?
Alors, on s'est engagé avec enthousiasme, mais en sachant pertinemment que sur la pérennité pour la continuité et le bien fondé, en tout cas, de notre solution, on voulait encadrer. On a envoyé des dossiers depuis 5 ans à bon nombre de collectivités pour nous faire connaître la technique, etc. Je précise au passage que les images qu'on a vues, pour beaucoup, sont de la craie, de la peinture, etc. Et qu'elles sont réservées pour les collectivités, uniquement pour les collectivités. Là, les images qu'on voit actuellement sont pour les annonceurs privés. Donc, c'est beaucoup plus subtil. C'est un fait par haute pression, avec de l'eau non potable. C'est éphémère et 100% écologique. Mais il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de détergent. Donc, tout ce qui est, ce qu'on a pu voir dans beaucoup de médias, des stickers, des craies, etc., ça n'a rien à voir avec notre activité. Et je dirais que, du coup, bah, forcément, moi, je suis dans l'opinion publique où je suis élu d'une collectivité. Je vois ce texte qui arrive, plus beaucoup d'images de marquage à la craie, de stickers, etc. Je dis non.
Alors, du coup, pour vous, qu'est-ce que ça a changé? Parce que jusqu'à présent, vous profitiez ou vous étiez dans le flou, dans votre activité commerciale, en tout cas, vous étiez dans le flou. Maintenant, on dit, il y aura pas d'expérimentation. Du coup, c'est l'ancienne loi qui se passe. Qu'est-ce que ça va changer pour votre business? C'est pas forcément une bonne nouvelle, non?
À la fois bonne et mauvaise, dans un sens, bon, ça nous a fait aussi une bonne ou mauvaise publicité, je sais pas, mais en tout cas, peut-être que ça va ouvrir au dialogue. Et nous, c'est ce qu'on a toujours souhaité. Quand vous créez une entreprise et que vous avez 22 ans, à l'époque, on avait 22 ans, frapper aux bonnes portes et trouver les bons interlocuteurs, c'est quand même pas facile. Aujourd'hui, on parle beaucoup de start-up, d'incubateurs, d'accélérateurs, etc. Nous, il y a 5 ans, on parlait pas de tout ça. Donc, il a fallu essayer d'envoyer des dossiers, on n'avait pas forcément beaucoup de retours. Donc, au moins, peut-être que ça va ouvrir le débat. Et nous, on a toujours été pour discuter, encadrer et réglementer notre activité. On n'a jamais voulu justement à chaque fois être, et on a beaucoup de preuves de mails envoyés aux collectivités, ouais, pour justement dire non, on n'a jamais voulu être des sauvages et faire ça n'importe comment.
Maître Landau, j'imagine pourtant que ça doit être quelque part une manne financière aussi pour les villes. J'imagine qu'elles peuvent peut-être taxer l'utilisation de leur trottoir. Comment est-ce que ça se passe?
Ah bah, le trottoir appartient à la collectivité locale qui doit, mais exactement comme pour le mobilier urbain, mettre en concurrence, mais selon des modalités assez souples, pour savoir qui seront ses interlocuteurs, qui seront ses acteurs sur le marché. Et ensuite, évidemment, il y a l'obligation, pas la faculté, l'obligation de percevoir une redevance sur ses usages, en fonction de combien ça coûte à la collectivité, mais aussi combien ça rapporte. Il y a des textes assez précis sur ce point.
Le décret a l'air de s'inquiéter beaucoup des répercussions en termes d'accidents, de chutes potentielles. Il y a un risque juridique vraiment là-dessus?
Bah, évidemment, quand vous êtes demain maire, par exemple, d'une grande agglomération, vous allez avoir peur de quoi? Vous allez penser qu'on va gagner effectivement un petit peu de sous, pas des sommes folles, mais un petit peu de sous sur cette pratique de pub, super. Mais que s'il y a 3 personnes qui se sont cassées la figure, on va dire que c'est à cause de la pub et donc évidemment à cause de l'autorisation donnée par monsieur ou madame le maire. Donc évidemment que ça stresse tout le monde, sauf que les conditions dans lesquelles ça a été prévu par ce décret a plein de défauts. Ils n'ont pas fait assez de concertation avec les collectivités territoriales. Ils n'ont pas assez communiqué sur le fait qu'il s'agissait bien de dispositifs temporaires, provisoires, lavables, absolument pas agressifs, rien à voir avec les stickers. En revanche, ce décret est bien fait par le fait que on réglemente bien cette activité et qu'elle est limitée à des choses qui, en réalité, ont très peu de risque d'occasionner des accidents. Mais, évidemment, qu'il faut faire un petit sondage, une petite vérification d'accidentologie pour voir si ça n'entraîne pas des risques.
C'était prévu, voilà, d'ailleurs, dans le décret.
C'est prévu dans le décret.
Mais alors, bon, parce que ça dépend du code de la route, ce qui est aussi un petit peu surprenant quand on se promène sur les trottoirs. D'autant qu'en fait, le trottoir, vous le nettoyez quelque part, parce que la façon dont vous marquez, vous nettoyez l'endroit où vous appliquez la
C'est uniquement, comme je dis, voilà, exactement. C'est uniquement, comme je disais, principalement du nettoyage, avec de l'eau non potable, projetée à haute pression. Il n'y a pas de détergent, etc. Et derrière, bon, on parle de risque d'accident. Enfin, aujourd'hui, il y a quantité de supports publicitaires sur l'espace public. Je pense que nous, on est quand même plutôt subtil. On nous voit quand on passe à proximité. Donc, on ne nous voit pas à plusieurs mètres à la ronde.
Et vous avez une idée de l'impact publicitaire de ce
des retours
ouais.
Oui, on a déjà fait beaucoup d'analyses, etc. À peu près, en moyenne, 60% des personnes qui passent voient le marquage. Maintenant, bon, moi, en fait, si le débat est de dire on interdit toute la publicité dans le domaine public, je comprends effectivement qu'il puisse y avoir un débat et dans ces cas-là, on est considéré comme tout le monde.
Ça se présente mal pour vous, entre autres, mais pas que.
On est mis dans le même sac que tout le monde, que l'ensemble des supports publicitaires. Aujourd'hui, on a un support qui est 100% écologique, qui s'adresse aussi aux commerçants indépendants, associatifs, petits budgets. Aujourd'hui, si on regarde, qui peut communiquer sur des espaces qui aujourd'hui sont alloués? C'est tous les grands annonceurs.
Ouais.
Enfin, je veux dire, il faut se déplacer sur le domaine public. On voit principalement toujours.
Parce qu'effectivement, vous avez une solution qui est moins chère.
Exactement. On a une solution qui est compétitive, 100% écologique et biodégradable. Qu'aujourd'hui, on parle de transition écologique et en même temps, de pouvoir toucher des cibles qui, avant, n'avaient pas accès.
En tout cas, la porte est ouverte parce que ça va être expérimenté à Lyon. Merci beaucoup, Tanguy Barre de Coutances, directeur associé chez Biodégrade, et maître Éric Landau, avocat au barreau de Paris.
BFM Business, Hebdocom, comme un chef.
Et pour finir, nous sommes avec Guillaume Morin, directeur marketing produit de Salesforce. Bonjour. Salesforce, quatrième éditeur de logiciels du monde. Si je vous dis que votre axe de communication, c'est faire en sorte que les entreprises se rapprochent de leurs clients et réussissent leur transformation aux côtés de leurs clients, ça vous va?
Absolument, absolument. C'est effectivement le métier de Salesforce. C'est depuis 18 ans que nous existons. C'est d'avoir déjà révolutionné les logiciels d'entreprise, puisque maintenant nous avons une plateforme leader dans le cloud computing sur les applications vente, B2B, mais aussi B2C. Très peu de personnes sont au courant, et moi c'est un de mes gros axes aujourd'hui, c'est de communiquer sur comment évolue Salesforce au quotidien auprès des clients. C'est qu'on a une plateforme d'e-commerce qui est la troisième plateforme mondiale. Aujourd'hui on opère plus de 5000 commandes par jour pour le compte de nos clients.
Donc, quand même.
Ouais, c'est quand même énorme, et c'est vrai qu'on vient d'un monde très Salesforce Automation, de par notre nom Salesforce, les gens nous connaissent, mais c'est 30% de notre activité aujourd'hui. Donc vous imaginez, sur les 10 dernières années, nous avons fait l'acquisition et puis fait grossir aussi notre innovation pour nos clients, et aujourd'hui c'est une panoplie d'outils qui permet à nos clients de gérer leurs relations au quotidien avec leurs clients.
Et pour mieux faire connaître ces outils et leurs applications concrètes, en fait, j'ai envie de dire, vous avez misé beaucoup sur l'événementiel avec notamment Dreamforce. Qu'est-ce que c'est que Dreamforce?
Absolument. Depuis le début, l'ADN de Salesforce, c'est les clients. Donc, on a remis nos clients au cœur de notre communication d'entreprise. D'abord par toute l'innovation qu'ils ont créée avec nos technologies. Au départ, on s'est adressé, et c'est un des gros challenges actuellement, on s'adressait aux startups, aux moyennes entreprises qui ont commencé avec Salesforce au tout début, quand cette entreprise dans la Silicon Valley a pris pied. Hein. Ensuite, on a grossi, on est 28 000 aujourd'hui, mais on reste encore en forme de start-up, en fait. Quand on crée quelque chose, on peut avoir cette flexibilité, cette agilité pour communiquer. Ensuite, les grands groupes se sont intéressés à la technologie. Mm-hmm. Et depuis 10 ans, moi, maintenant, mon challenge aussi, c'est de pouvoir expliquer que des entreprises comme Litchi, comme Sigfox, qui ont vite grossi, ont utilisé Salesforce au départ, puisqu'elle permet d'adresser un volume tout de suite plus global, de multiculture, multi-devises, multi-pays, en fait. Et ces technologies dans le cloud permettent tout de suite d'avoir cette information disponible pour casser les silos dans l'entreprise. Donc les gens vont collaborer mieux autour de la donnée client, ce qui est stratégique aujourd'hui pour nos clients. Et on retrouve dans nos événements, on a commencé très petit sur des événements. Aujourd'hui, on a deux événements clés. Un à Dreamforce, où il y a plus de 170 000 personnes. C'est l'équivalent du CES
de Las Vegas,
qui a lieu en ce moment. Et en France, on a plus de 12 000 inscrits sur notre événement, qui aura lieu d'ailleurs le 6 juin cette année. Le Salesforce pour le Tour Paris à Porte de Versailles. Et donc, ma stratégie actuelle, c'est de travailler sur le contenu. Le contenu, c'est la pierre angulaire de chez nous, notre entreprise. Comment un client, on fait
avec savoir... des communautés aussi, j'ai vu
avec
ça.
Avec des communautés, absolument.
Des communautés de clients.
Absolument, ouais. Mon rôle au quotidien, on est à peu près une dizaine dans l'équipe. Hein, c'est mieux faire savoir le savoir-faire de nos clients. Qu'est-ce qu'ils ont fait en innovation? Du coup, c'est très pragmatique. Combien de white papers, de papiers dans la presse vous lisez qui vous intéressent pas forcément? Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est remettre ce client au cœur. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement avec nos applications, et comment est-ce qu'ils peuvent le déporter dans d'autres métiers, d'autres business? Et ça, c'est vraiment un sujet clé, c'est faire connaître ça dans nos événements, que nos clients puissent témoigner et profiter aussi de notre image d'innovation pour se positionner en innovation, puisque les marques françaises nous utilisent aussi pour se faire connaître dans le monde. Michelin était à Dreamforce en novembre et a pu témoigner de sa transformation depuis comment est-ce qu'il crée un écosystème innovant autour des clients, et comment est-ce que demain ils vont aller jusqu'aux pneumatiques connectées pour revoir leur business model et comment engager ses clients sur la suite B2C. Donc vous voyez, il y a quand même une énorme palette d'applications chez nous qui permettent de globalement remettre aussi de l'humain au centre
Ça, j'ai l'impression que dans le digital, c'est vraiment le maître mot.
C'est le maître
remettre
mot.
De l'humain au cœur des relations. Merci beaucoup, Guillaume Morin. Je rappelle que vous êtes le directeur marketing produit de Salesforce. Merci également à Frédéric Roy d'avoir été à mes côtés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ev.com.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Ev.com sur BFM Business.